Bonsoir, nous sommes heureux de vous retrouver. L'ouvreuse Louis-Marie, Laurent Martin. Bonsoir Laurent.
Bonsoir Louis-Marie, bonsoir à tous.
Avec nous également Guillaume Sidom. Bonsoir,
bonsoir
Guillaume.
Bonsoir à tous.
Et Grégory Com, last but not least.
Bonsoir à tous.
Ce soir, une émission un petit peu particulière. Vous vous êtes rendu compte de cette programmation qui va tourner autour de la musique de films, mais aussi de séries. Chacun d'entre nous, l'ouvreuse comprise, c'est un des caprices de l'ouvreuse, elle a voulu qu'on cause musique, donc on cause musique. Avons choisi quelques titres ou quelques extraits de BO, on va vous les soumettre et ainsi vous détendre un petit peu les oreilles parce qu'on va passer que de la musique, mais parler aussi un petit peu. Suis-je assez clair ?
Oui, tout à fait, tout à fait, Louis-Marie, comme d'habitude.
Merci. Alors pour commencer, eh bien, d'habitude, nous projetons un film et cette fois-ci, nous allons écouter une compositrice. Oui, une compositrice de musique qui était de passage à Toulouse. Elle faisait partie du jury de Cine España. Cette compositrice, c'est Béatrice Thirier. Elle a travaillé avec beaucoup de réalisateurs et notamment Dominique Cabrera, qui était la présidente de ce jury. Eh bien, on va l'écouter et elle va nous expliquer comment on fait pour avoir une bande originale plutôt vivante. Béatrice Thirier.
Chaque cinéaste a une manière de percevoir la musique différemment et de me faire des commandes aussi très différentes. Donc, moi, j'ai l'impression que pour que ça marche et pour que ça soit vivant, parce que en fait, c'est ça. Ce qu'on recherche avec la musique, c'est que c'est anormal de mettre de la musique dans un film. Justement, à part les clochers, est-ce qu'on a de la musique dans la vie ? Non. Donc c'est anormal en fait. Donc pour que ça soit vivant, il faut trouver ce point de rupture où le film bascule et où on est où la musique veut dire quelque chose dans la dramaturgie, sert la narration, donne un point de vue. Donc vous voyez, c'est un équilibre, c'est très fragile et ça change tout le temps. Mais on sait tous et toutes que quand ça marche, c'est formidable et que quand ça marche pas, on le sent aussi.
Béatrice Thirier a composé la musique du film de Marc Esposito, Le cœur des hommes, qui est sorti en 2003. Rappelez-vous l'histoire de Manu, Jeff, Alex et Antoine, qui sont une bande de copains depuis leur rencontre à l'US Melun en CFA. Eh oui, ils jouaient au foot. Leurs vies respectives sont marquées par des hauts et des bas, mais ses amis partagent le bon et le mauvais et ils ne renient jamais leur complicité. Béatrice Thirier a écrit la musique de ce film. Grégory Com, c'est à vous. Qu'est-ce que vous avez choisi comme musique dans votre boîte à séries ?
Alors, on va commencer par quelque chose de culte, Magnum, série extraordinaire sur cet ancien combattant de la guerre du Vietnam qui est détective privé et qui doit garder une propriété d'un riche écrivain dont on ne verra jamais le visage, avec Higgins, le fameux majordome anglais, et ses deux Doberman, Zeus et Apollon. Mais sous ce côté un petit peu rigolo, on a quand même une série qui aborde les anciens combattants de la guerre du Vietnam, série assez profonde, et qui a fait des crossovers juste incroyables, c'est-à-dire avec d'autres séries. Il y a un épisode avec Arabesque, et un épisode avec Simon et Simon. Voilà, je pense qu'on peut lancer le générique, on l'a déjà tous en tête.
On est à bord de l'hélicoptère, au-dessus de l'océan, près d'Hawaï, puisque c'est là-bas que ça se passe, Grégory Combe.
Exactement, c'est là-bas que ça se passe. On a véritablement cette ambiance, ces décors formidables. Ce côté, la chemise à fleurs,
la moustache. Voilà. La Ferrari.
La Ferrari. Et la question qu'on se pose pendant toute la série, Higgins est-il véritablement le riche propriétaire ou se fait-il passer pour quelqu'un d'autre, sachant que l'acteur lui-même joue plusieurs rôles dans la série. Il joue le personnage d'Higgins et l'ensemble de ses frères, cousins, cousines, dans la série. Il fait un curé mexicain, il fait un pistolero, enfin il fait plein de choses. On se souvient aussi des courses de Magnum avec les deux Doberman. Voilà, une série qui a réussi à la fois à être drôle, touchante, aborder de vrais sujets. Une série parfaite, quoi.
Et c'est à cause d'elle que Magnum, Tom Selleck, n'a pas été Indiana Jones, puisqu'il a préféré assurer ses arrières plutôt que d'accepter ce scénario qui, il imaginait, ne fonctionnerait pas tellement au cinéma. Le succès au box-office des Aventuriers de l'Arche Perdue l'a contredit. Néanmoins, on aime Magnum. Et qu'est-ce qu'on aime aussi, grâce à vous, Grégory Combe?
Alors, je vais vous parler maintenant d'une autre série qui est dans un petit peu la même époque, parce que il y avait un vrai travail des séries américaines pour parler de la guerre du Vietnam, des vétérans de la guerre du Vietnam. C'était un sujet qu'on abordait peu. Rambo, là, on parle très bien de ces vétérans peu aimés. Et on va parler aujourd'hui de L'Enfer du Devoir, donc une série, et pour la première fois, sur la guerre, et pas une série comique. On avait Papa Schultz ou autre, qui était plutôt comique. Là, on a une série sérieuse, avec une BO extraordinaire, Painted Black, qui montre à la fois, on se demande ce que ça signifie pour cette série, mais la tristesse, la dépression, le deuil, cette BO marque tout ça, et c'est pour ça que cette série est autant iconique. L'Enfer du Devoir, première série sérieuse sur la guerre.
Black, j'ai vu une porte rouge et je veux la peindre en noir. Terrible. Non, les paroles de la chanson des Stones.
Terrible, parce qu'elle montre bien justement cette ambiance dans cette série sur la guerre du Vietnam. C'est-à-dire que, alors, la porte rouge, certains se sont dit, est-ce que c'est la question de la Chine, du communisme, ou autre, c'était une vraie question. Mais en fait, le réalisateur a dit non, c'est cet aspect de tout voir en noir, d'être vers le désespoir. Et c'est une série, c'est qui est dure, sur 3 saisons, qui porte le désespoir en fait de ces jeunes, qui représentent d'ailleurs vraiment, c'est une photographie de l'Amérique, avec le jeune sergent, le pacifiste, les vétérans, qui représentent toutes les couches sociales, qui sont confrontés à la même chose, à un ennemi en plus invisible, ils ne le connaissent pas, et à leur propre fin potentielle. Série dramatique particulièrement importante.
On enchaîne, Grégory Combe. Qu'est-ce que vous nous proposez comme ultime série dans votre choix ?
Alors, ultime série, c'est 13 Reasons Why. C'est une série sur Netflix, particulièrement dure. Et d'ailleurs, pour nos auditeurs, si vos enfants le regardent, je vous conseille de le regarder avec eux parce que ça aborde des sujets assez graves, qui sont les sujets du harcèlement scolaire, du suicide chez les adolescents. Et l'histoire, c'est une jeune fille, Anna Baker, qui se suicide et après son suicide, envoie 13 cassettes à 13 personnes pour leur dire « je suis morte et c'est un peu ta faute ». Et je vais t'expliquer pourquoi. Et donc c'est une série sans concession qui aborde tous les problèmes des ados. Donc je conseille vraiment aux parents de regarder cette série. Et la chanson de ce soir, qui est « The Night We Met », la nuit où on s'est rencontrés, représente pour moi toute la quintessence de cette série. C'est le moment où le héros, Clay Jensen, qui était amoureux d'Anna Baker, qui ne lui a jamais dit qu'il l'aimait, il savait qu'elle aussi pouvait potentiellement l'aimer. Il y a beaucoup de non-dits. Ils ne se sont jamais aidés. Ils n'arrivaient pas à se croiser. Et en fait, c'est un peu une ode sur la nuit où on s'est vu et tout ce qui aurait pu arriver si je t'avais parlé quand j'ai su que tu allais mal. Et je trouve que pour moi, c'est ça, une bonne BO de série télé. C'est retranscrire par la musique toute la souffrance, la dépression et la mélancolie d'un rendez-vous manqué qui a des conséquences dramatiques et de tout ce qu'on aurait pu être.
The Night We Met.
Well, N'oubliez pas l'ouvreuse sur Radio Présence.
On est toujours avec l'ouvreuse, on est toujours dans les bandes originales. Les bandes originales de série, c'est fait. Maintenant, on s'occupe du cinéma. Et on retrouve Béatrice Thirier, qui nous explique comment ça se passe quand elle travaille avec un réalisateur, quand en fait, on lui commande une musique. Béatrice Thirier.
C'est une espèce de discussion, un peu, moi j'appelle ça un peu des portraits chinois, parce que les cinéastes, ils n'ont pas forcément une éducation musicale assez poussée pour me commander une musique avec des mots de technique, hein, de musicien. Donc, on essaye de s'approcher ensemble de la musique idéale pour le film, et moi j'essaye aussi de ne pas utiliser un vocabulaire de musicienne ou de technicienne pour m'inspirer de ce qu'ils me racontent. Alors moi je les écoute beaucoup. Et à travers ce qu'ils me disent de leur film, en fait, hein, je suis inspirée. Puis aussi à la lecture des scénarios. Et puis aussi, c'est vrai que moi, je travaille, j'ai des longues collaborations avec des cinéastes. Par exemple, avec Dominique Cabrera, qui est notre présidente du jury, ça fait 22 ans qu'on travaille ensemble. Et on a fait 6 films ensemble. Ça veut dire que, quand même, il y a quelque chose... au début, c'est elle, pour l'autre côté de la mer, c'est vraiment elle qui m'a inspirée, le sujet de son film. Mais après, j'ai l'impression... de comprendre déjà ce qu'elle aime, parce que je vois pas pourquoi on ferait pas une musique que le cinéaste aime. Je vois pas pourquoi un cinéaste montrerait pas une musique qu'il aime. C'est déjà clair. Donc de trouver quelque chose qui... Et puis mais évidemment à chaque film ça change, parce qu'on fait jamais la même musique, hein. C'est pas parce que c'est le même cinéaste ou la même cinéaste qu'on utilise même les mêmes instruments, le même type de composition ou même le même style de musique, hein. Ça a rien à voir d'un film sur l'autre. Mais voilà, j'ai l'impression de sentir quelque chose dont elle a besoin surtout pour son film.
Elle a beaucoup travaillé, Béatrice Thirier, qu'on vient d'entendre, avec Dominique Cabrera. Elle a parlé de L'autre côté de la mer. Elle a aussi composé la musique de Corniche Kennedy, un film de Cabrera qui avait remarquablement bien marché, obtenu quelques prix dans différents festivals, et qui est l'adaptation du roman éponyme de Maïlys de Kerangal, un roman qui avait été publié en 2008. Le film, lui, est sorti en 2016. C'est probablement le premier succès de Maïlys de Kerangal. Voilà donc Corniche Kennedy qui raconte l'histoire de Suzanne, une jeune fille de bonne famille qui va tomber sur une bande de jeunes garçons et filles des cités marseillaises et qui vont sur la Corniche Kennedy. Vous savez, c'est une route qui longe la mer, et un endroit en particulier, ils se mettent là tous les soirs, ils se retrouvent à cet endroit et il y a 3 niveaux pour sauter, un niveau qui est facile, un moyen et un très difficile, voire très dangereux. Et c'est l'histoire de Suzanne, de ces jeunes gens et puis de leur déboire. C'est une comédie dramatique que Béatrice Thirier illustre remarquablement bien.
Je vous vois frémir, Louis-Marie, Laurent et Grégory, autour de la table. Et on va frémir ensemble, on va évoquer ensemble la BO de Psychose de 1960, musique inquiétante aussi. Ce n'est pas la première collaboration entre Hitchcock et Bernard Herrmann. Le nom de Bernard Herrmann est tellement associé au maître du suspense que vous en oubliez presque l'immense œuvre du compositeur américain qui va de Citizen Kane à Taxi Driver, excusez du peu. Compositeur né donc en 1911, mort en 1975 et en 1960, quand sort Psychose, ce film en noir et blanc, le compositeur va composer, et c'est lui qu'il dit, une musique, une partition en noir et blanc. En 1960, Alfred Hitchcock veut tourner Psychose sans musique, en utilisant des effets sonores et autres bruitages. Il pense même à une bande originale de jazz. Se ravise et fait appel à son vieux complice d'alors, Bernard Herrmann, qui dispose d'un petit budget qui va être plus inventif que jamais en composant seulement pour un orchestre à cordes, procédé à l'encontre des codes du moment avec l'utilisation des sonorités stridentes des cordes. Eh bien, Herrmann va vous terrifier, vous les spectateurs. L'efficacité de Psychose est due pour moitié à la musique signée du maître du suspense Alfred Hitchcock, Psychose, ou comment la bande-son peut mener la danse à elle seule, vous terrorisant, vous obsédant longtemps après la fin du film. Voici, pour vos oreilles averties, le prélude du film qui est aussi le générique.
Bernard Herrmann, Hitchcock, Psychose, c'est le titre du film. Laurent Martin, qu'est-ce que vous nous proposez, vous ?
Un petit western, messieurs ?
Ah ben oui, ah, ah oui, retour, on a envie de ça.
Retour en 1959 avec Howard Hawks qui tourne Rio Bravo, avec John Wayne, Dean Martin, Walter Brennan et Ricky Nelson. Alors, quand on a dans un film Dean Martin et Ricky Nelson, on se dit qu'à un moment donné, ils vont pousser la chansonnette. Eh bien, figurez-vous, c'est, on y a droit, hein, c'est ce qui arrive. Alors, imaginez que vous êtes enfermé dans une prison, Dean Martin allongé sur un lit, Ricky Nelson prend sa guitare, un pied sur un tabouret, Walter Brennan affûte son harmonica, et John Wayne regarde, hein, parce que lui, il joue uniquement du Colt, et ça donne ça.
The sun is sinking in the west. The cattle go down to the stream. The redwing settles in her nest. It's time for a cowboy to dream. Purple light in the canyon. That's where I long to be with my three good companion, just my rifle, pony, and me. Gonna hang my sombrero on the limb of a tree. Coming home, sweetheart, darling. Just my rifle, pony, and me.
Whippoorwill in the willow sings a sweet melody.
Riding to Amarillo,
Amarillo.
Just my rifle, pony, and me.
No more cow,
no more cow
to be roping,
to be roping.
No more stray,
no more stray
will I see
round the bend,
round the bend.
She'll be waiting,
she'll be waiting
for my rifle, pony, and me. For my rifle, my pony, and
Ricky Nelson, Dean Martin et Walter Brennan, n'est-ce pas Laurent Martin ?
Eh oui, il n'y a que John Wayne qui ne chante pas là, dans cette scène.
Rio Bravo, mais on passe des Colts de John Wayne.
Sans transition.
Sans transition aucune. Ouais. On quitte la prairie, les Landes, le désert aussi, pour aller en ville.
Oui, vers Speed, 1994, BO, signé Mark Mancina, le compositeur qui travaille pour la première fois avec le cinéaste Jan de Bont en 1994 pour le film Speed. Je vous rappelle quand même rapidement le pitch du film. Un jeune policier joué par Keanu Reeves est aux prises avec un maître chanteur artificiel à la retraite. Il menace de faire sauter un autobus dans lequel il a placé une bombe qu'il peut faire exploser à distance. Interro surprise super flic, il y a une bombe dans un bus. Tu passes la barre des 50 miles, la bombe est activée. Repasse sous la barre des 50 miles, la bombe explose, le ton est donné. Et tout au long du long métrage, eh bien, la musique va vous accrocher, vous spectateurs, tout autant que les scènes qu'elle accompagne. D'un rythme lent, elle s'accélère ensuite, annonçant l'intrigue dont le rythme va s'intensifier durant les deux heures du film. Mais la musique vaut mieux que mille mots.
Je m'appelle Bond, James Bond. Et vous êtes sur Présence, Radio Présence.
Après les trépidances de Marc Mancina et Speed de Yann de Bont, on passe à quoi, Laurent Martin ?
On passe à Miloš Forman, qui en 1999 nous offrait la biographie d'Andy Kaufman, un comique américain, dans Man on the Moon, et utilisait un titre de Rapid Eyes Movement, plus connu sous le nom de REM, qui date lui de 1992, et qui s'appelle comme le film, hein, ça tombe bien. On écoute donc Michael Stipe et son groupe.
Yes.
R.E.M. Man on the Moon, extrait de la bande originale du film du même titre. Et l'on retrouve pour la dernière fois dans cette émission Béatrice Thirier, qui est compositrice de musique de film. Comment fait un compositeur de musique pour travailler? Quelle est sa base de départ? Voilà sa réponse.
Plus je sais quelque chose tôt, mieux c'est. Parce que vous savez, les temps de montage des films sont assez longs. Donc si j'ai la chance de lire un synopsis, même une version zéro du scénario, ça m'aide. Parce que mon imagination se met en marche, en fait. Et du coup, je gagne du temps. Mais voilà, le truc en musique de film, c'est qu'il faut aller très vite parce qu'on n'a pas beaucoup de temps pour travailler sur la musique réellement. Hein. Ça se passe en post-production. Donc c'est un temps court entre le montage image, le montage son, ça va être sur un ou deux mois. Donc il faut arriver à caler les temps de musique à un moment où le cinéaste récupère les images de son film. Donc je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. C'est un moment très important qui peut être très, très douloureux aussi. Donc il faut faire attention à ça. Parce que... Et puis au montage image, il y a une réécriture à laquelle la musique participe activement, bien sûr.
En 2006, c'était, si je ne me trompe pas, oui, ce film sortait, c'était le premier long métrage des époux Jonathan Dayton et Valérie Faris. C'est un road movie où on découvre une toute jeune enfant, à peine une dizaine d'années, elle s'appelle Olive. Elle part à un concours de beauté accompagnée par une famille ô combien haute en couleur. Il y a son papa, sa maman, son oncle, son frère qui a décidé de plus parler et son grand-père, qui lui est celui qui l'a formé, qui l'a aidé à imaginer son tour de chant pour cette élection de Little Miss. Et oui, puisqu'il s'agit de Little Miss Sunshine. Béatrice Thirier parlait des images, parlait du synopsis, tout ce qui lui permet, et qui permet de façon générale au compositeur d'imaginer une musique à mettre sur ses images. On se demande... ce qu'ont fait Michael, Dana et Devotchka pour trouver cette musique pour Little Miss Sunshine. En tout cas, ça claque fort pour un film qui a rencontré un succès extraordinaire puisque il a été nommé 4 fois aux Oscars et il en a remporté 2, meilleur scénario original, meilleur acteur dans un second rôle pour Alan Arkin qui joue le rôle du grand-père. Il a remporté le César du meilleur film étranger et le Grand Prix du Festival de Deauville. Excusez du peu puisque le film a coûté 10 millions de dollars et en a rapporté 100. Thank you. On descend du minibus, ce Volkswagen extraordinaire, ce combi jaune, dans lequel il faut monter en marche parce que la première ne fonctionne plus.
Il faut pousser parfois.
Il faut pousser. Oui, il faut le pousser pour qu'il démarre, donc il faut monter en marche puisqu'il n'y a plus de première. Mais là, on va s'installer dans une salle de cinéma et même de temps en temps, c'est même pas une salle. On est dehors, on est en plein air.
Oui,
n'est-ce pas Guillaume?
Oui, Louis-Marie, Laurent, Grégory, Cinéma Paradiso 1988, Ennio Morricone a composé quand même plus de 500 bandes originales pour la musique et la télévision, et la collaboration de Giuseppe Tornatore et Ennio Morricone débute elle en 1988 avec ce film qui reçoit le Grand Prix spécial du jury en 1989 au Festival de Cannes. Rome, année 80, Salvatore, cinéaste, apprend que son ami Alfredo est mort. Il se rappelle quand il a découvert le cinéma et qu'il est devenu ami avec Alfredo. Cinéma Paradiso, c'est une déclaration d'amour à cet art qu'est le cinéma, une merveille à savourer comme une délicieuse glace ou pâtisserie dont le goût unique et si délicieux restera à jamais en vous comme un lointain souvenir d'un amour disparu, du grand cinéma et une si belle musique du maestro Morricone.
Laurent Martin, quel beau choix vous avez fait là pour nous amener jusqu'à la fin de l'émission et descendre le rideau rouge.
Pour un film d'une grande beauté visuelle avec lumière naturelle et décors d'époque, il faut de la grande musique classique si possible. C'est le cas pour le Barry Lyndon de Stanley Kubrick sorti en 1975 avec Ryan O'Neill où l'on peut entendre du Mozart, du Schubert, du Vivaldi, de la musique traditionnelle et ce morceau de George Friedrich Händel, Sarabande.
C'est sur cette sarabande de Handel que nous allons vous quitter. On espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. On a causé musique avec l'ouvreuse, avec Laurent Martin, avec Guillaume Sidom et Grégory Combe. C'était donc N'oubliez pas l'ouvreuse, spécial musique, spécial BO. Merci messieurs.
Merci. Merci à vous, en espérant que ces BO vous ont donné envie de revoir tous ces films.
Évidemment, et quand on finit par celle-là, on a forcément les images dans les yeux. À la semaine prochaine. Et puis radioprésence.com pour le podcast. Salut.
avait les yeux d'une couleur facile à reconnaître, celle de ces wagons éteints sur les voies de garage. Entrez, dit-elle, et venez vous abriter de l'orage.
Vous souhaitez joindre Radio Présence, c'est très simple. Par mail, contact@radioprésence.com. Par courrier, 4 rue des Feuillants, 31300 Toulouse. Par téléphone au 05 62 48 63 00. Et enfin, vous pouvez interagir sur nos réseaux sociaux, Facebook ou Twitter.
Avec le pape.
Chaque premier vendredi du mois, le réseau mondial de prière du pape vous invite à joindre votre prière aux intentions que donne le pape François.
À 6h20 et 20h45, écoutez, priez et vivez un moment de communion rempli d'espérance.